La baronne trépassée, cinquième fichier. Chapitre 21. Le baron et ses hôtes montèrent à cheval, et la lalie fut sonnée. « Rochaine ne vient donc pas ?» demanda Samuel à Willem. « Non, » dit Willem d'un air de mauvaise humeur. « Pourquoi donc ?»« Parce que je le lui ai défendu. » Samuel haussa les épaules. « Tu es un despote pour cet enfant, » dit-il. « Tu trouves ?» « Je fais mieux, je m'en indigne. » Willem fronça le sourcil. « Je suis jaloux, » dit-il. « Imbécile !»« Je crains qu'elle ne l'aime. »« Fou que tu es, Willem ! Willem, ta sotte jalousie finira par nous trahir, et tout sera perdu. »« Eh bien, que m'importe ?»« Il m'importe beaucoup, et à nous tous, niais. Si nous laissons la partie inachevée, nous sommes des gens ruinés. » Et nous avons si peu de crédit et tant besoin d'argent.
Chut ! Dit Willem en montrant le baron qui rapprochait, courbette par courbette, son cheval des leurs.
On partit. La chasse fut magnifique. Le cerf forcé en 8 heures. Chevaux, chiens et piqueurs firent merveille. Et monsieur de Nossac se laissa aller à ses instincts de veneur, se disant qu'il serait temps au retour de songer à Rochaine et aux moyens de fuite. Le retour s'effectua vers le soir, et les veneurs trouvèrent le souper servi et Rochaine les attendant dans la salle à manger. Rochaine trouva l'occasion de s'approcher du baron.
« Tout sera prêt, » dit-elle furtivement.
Le souper fut joyeux. On plaisanta le baron sans aigreur, on se moqua des vampires, mais pas un mot ne fut dit sur Gretchen, ni par le comte de Holden-Gragsburg, ni par monsieur de Nossac.
« Baron, » dit le comte, comme le souper tirait à sa fin, « nous allons vider, suivant notre coutume, un flacon de malvoisie. Tendez votre verre. »
La poudreuse et séculaire bouteille fut débouchée, et le baron tendit son verre. Mais au moment où chaque convive levait le coude, il jeta prestement le contenu de son verre sous la table. Nul ne vit ce geste, excepté Rochaine et un nouveau personnage qui parut sur le seuil. C'était Gretchen. Gretchen fronça le sourcil, attacha un pénétrant regard sur Rochaine, dont les yeux s'étaient furtivement baissés, et ses lèvres se plissèrent avec une expression de haine terrible.
« Tiens, voilà Gretchen !» s'écria-t-on.
Gretchen entra et salua avec un charmant et frais sourire, mais elle était pâle comme toujours, et sa démarche un peu raide trahissait les derniers vestiges de l'engourdissement dont elle sortait. Monsieur de Nossac tressaillit à sa vue, et sentit son œil attiré vers elle et cloué sur ce visage pâle par une force invincible et mystérieuse. Cependant, il n'éprouva point, comme la veille, cette lourdeur subite qui le prenait aussitôt après le souper. Mais voulant à son tour se rendre maître de la situation par la ruse, il feignit d'en être atteint et demanda à se retirer. Comme il passait près de Rochaine, elle lui serra furtivement la main et lui dit
« J'irai vous éveiller, et si le vampire vient ?»
Elle s'arrêta, jeta à la dérobée un regard haineux et jaloux à Gretchen et acheva
« Tu es là !»
Le baron tressaillit et ne répondit pas. Mais quand il fut rentré chez lui et se fut mis au lit, il se prit à réfléchir et convint avec lui-même qu'il était dupe d'une terrible mystification, car les révélations de Rochaine l'avaient éclairé. Et alors, il en arriva à conclure que Gretchen était une aventurière qui jouait le rôle de sa femme, soldée par quelque ennemi personnel qu'il devait avoir de par le monde. Et, s'étant arrêté à cette pensée, il se dressa à demi sur son séant, assurant son épée dans sa main et se disant « Je ne suis plus d'humeur à être cauchemardé et mordu par un faux vampire. » Il attendit longtemps. Personne ne vint. Les heures s'écoulèrent et le baron finit par s'endormir, serrant la garde de son épée sur sa poitrine. Mais tout à coup, il fut éveillé en sursaut. La porte s'ouvrit et grinça sur ses gonds, quoique poussée avec précaution. Et le baron vit se dessiner une forme blanchâtre au milieu des ténèbres. À cette vue,
Et quoiqu'à moitié endormi encore, le baron se dressa sur son séant et serra son épée avec force sur sa poitrine, comme s'il eût besoin de réconforter son courage. Il s'était endormi en se disant que Gretchen n'était qu'une misérable fille à la solde d'un de ses ennemis. Mais le sommeil aidant, ses terreurs à l'endroit des vampires lui étaient revenues. Et quand il vit cette forme blanche marcher vers son lit, il sentit ses cheveux se hérisser. Seulement, comme il n'avait point bu son dernier verre de vin, il était parfaitement dispos de corps et affranchi de cette lourdeur paralytique qui s'était emparée de lui pendant les nuits précédentes. À mesure que la forme blanche avançait, la raison du baron s'en allait grand train. Gretchen, de femme qu'elle était, redevenait vampire, et ce vampire, il le haïssait et l'aimait en même temps. Il se sentait à la fois attiré et repoussé, fasciné et irrité par lui. Il éprouvait pour Gretchen, qu'elle fût femme ou vampire, un amour inexplicable et d'une violence extrême, un amour qui lui semblait hors nature, le révoltait et le rendait ivre de fureur, et se convertissait en haine à la moindre réflexion qu'il faisait. Il se livra donc un combat terrible chez lui à l'apparition du fantôme, une lutte entre son cœur et son esprit qui dura 10 siècles en 2 secondes. Le cœur l'attirait, le poussait les bras ouverts et tendus vers Gretchen. L'esprit chancelant et grisé lui murmurait à l'oreille « Tue-la !» Et pendant cette lutte, il serrait convulsivement son épée, et il sentait la sueur de l'angoisse et de l'effroi découler, lente et froide, sur ses joues. Quant au fantôme, qui les nuits précédentes ouvrait la porte avec fracas et marchait vers le lit avec une assurance pleine de raideur, il avait singulièrement modifié ses allures. La porte s'était ouverte avec précaution, et il l'avait laissée entrebâillée. Il avançait sur la pointe du pied, s'arrêtant parfois, écoutant avec anxiété, et paraissant incertain et timide dans sa marche, comme s'il eût été un étranger inaccoutumé aux ténèbres et aux dispositions locales de l'appartement, et redoutant de se heurter à quelque meuble bruyant, à quelque angle inaperçu. Enfin, la forme blanche arriva jusqu'au lit, étendit le bras en avant et entoura silencieusement le baron. Le baron étendit le bras à son tour, et tout frissonnant, mais guidé, dominé par une force fébrile et vertigineuse, il creva la poitrine du fantôme d'un furieux coup d'épée. L'esprit avait vaincu le cœur. Le fantôme poussa un cri de douleur et s'affaissa tout pantelant sur lui-même. Ce cri fit tressaillir le baron qui, dégrisé, se précipita hors du lit. « Gretchen ! Gretchen ! » hurla-t-il. « Ce n'est point Gretchen !» murmura le fantôme d'une voix éteinte. Le baron jeta un cri. Ce cri, joint à celui qui s'était échappé de la poitrine crevée du fantôme, éveilla sans doute en sursaut les hôtes du manoir de Oldengrasbourg, car tandis que M. de Nossac se penchait haletant et hors de lui sur cette forme blanche qui râlait au pied de son lit, les portes s'ouvrirent, un peu de lumière pénétra soudain dans l'appartement, et, demi-vêtus, Samuel et Willem entrèrent, pâles et frissonnants. À la lueur des bougies qu'ils portaient, le baron jeta un cri de désespoir et de folie furieuse. Cette forme, ce n'était point le vampire, ce n'était pas Gretchen, la morte, la suceuse de sang. C'était Rochaine. Rochaine, qui à 2 heures du matin était venue pour éveiller celui qu'elle aimait et lui dire « Venez !» Un cheval tout scellé nous attend au pont-levis. » Puis après le baron, ce fut au tour de Willem et de Samuel à reconnaître Rochaine et à pousser une terrible et douloureuse exclamation. Rochaine n'était point encore morte. Rochaine râlait, l'œil tourné vers le baron, avec une résignation sublime, un ineffable sourire de pardon, et semblant lui dire « Tout ceci est ma faute et je me suis tué moi-même. Vous m'avez prise pour elle. » Alors, comme les instants étaient précieux, comme avant de fournir et de demander des explications, il fallait avant tout essayer d'arrêter sur les lèvres de cette malheureuse enfant la vie prête à s'en échapper, ces trois hommes se penchèrent simultanément sur Rochaine mourante. L'un soutint sa tête pâle, l'autre étancha avec son mouchoir le sang qui coulait à flots de sa blessure béante, le troisième s'élança hors de l'appartement, appelant au secours. Celui-là, c'était Samuel. Willem et le baron, ces deux êtres qui se haïssaient instinctivement, avaient fait taire leur haine et se trouvaient en présence, penchés sur cette infortunée jeune fille et unissant leurs soins et leurs efforts pour refouler au loin la mort qui venait à grands pas. Samuel, cependant, avait éveillé Conrad et Hermann, qui étaient étudiants en médecine et qui accouraient à la hâte. Mais ils arrivèrent trop tard. Rochaine venait d'expirer, sa main dans celle du baron et lui murmurant « Je t'aime ». Willem et le baron s'étaient redressés lentement tous deux, pâles, muets, consternés. Ils avaient attaché et rivé longtemps leurs regards au visage décoloré et contracté de Rochaine. L'arrivée de Samuel et des deux étudiants interrompit seule cette douloureuse contemplation. Alors ils reculèrent d'un pas chacun et se toisèrent une minute, silencieux, froid, menaçant. Le baron, qui pressentait l'agression dont il allait être l'objet, mit la main à la garde de son épée. Willem en fit autant. « Monsieur, dit-il, je ne sais comment et par quelle fatalité étrange vous venez d'assassiner l'être que j'aimais le plus au monde. Je ne sais encore comment et pourquoi je trouve cette femme chez vous, au pied de votre lit, à 2 heures du matin. Et j'aurai de terribles explications à vous demander. Mais j'ai soif de votre sang, et je perdrai un temps dont je suis avare. En garde, monsieur. » Et Willem, se redressant, rejetant sa tête adolescente en arrière, tira son épée et attendit. L'attente fut courte, car M. de Naussac dégaina aussitôt, sans mot dire, et se mit sur la défensive. Le baron tirait comme un élève de feu le régent, Willem comme un étudiant allemand, c'est-à-dire avec cette impétuosité, cette absence de calcul, cette promptitude de riposte et de parade qui déconcerte un adversaire inhabile, mais font sourire un homme de sang-froid et d'habileté. Si M. de Naussac eût eu un duel ordinaire avec Willem, c'est-à-dire un combat qui est séparé de la provocation par une nuit de repos, s'il n'eût pas vu devant lui le cadavre de Rochaine, si ses yeux, en se baissant, n'avaient pas rencontré cette flaque rougeâtre que le sang de sa victime avait, en jaillissant, formée sur le parquet, Willem était un homme mort. Mais le baron était troublé, désespéré. La sueur coulait de son front. Il avait un nuage sur les yeux et une enveloppe de glace sur le cœur. Son sang-froid s'en alla, le désespoir guida son bras, et il entassa faute sur faute. Deux fois, son épée dirigée à fond sur la poitrine de Willem effleura à peine le bras du jeune homme. Deux fois, il fut assailli par son adversaire, et son sang macula sa chemise et se mêla au sang de Rochaine. Conrad, Hermann et Samuel étaient les muets témoins de ce combat à mort. Enfin, Willem, profitant d'une faute, se fendit à fond. Son épée heurta la poitrine du baron et y disparut jusqu'à la garde. Le baron jeta un cri étouffé, ouvrit les bras, chancela et tomba à la renverse sur le cadavre de Rochaine, entraînant avec lui l'épée qui clouait sa poitrine. Willem posa alors un pied sur son adversaire et retira son épée sur laquelle les chairs s'étaient déjà refermées. « Je suis vengé !» dit-il. Mais soudain la porte s'ouvrit et Gretchen, pâle, hautaine, l'œil flamboyant, parut sur le seuil. Elle demeura un moment comme foudroyée et folle à la vue du spectacle qu'elle avait sous les yeux. Puis elle se pencha sur le corps du baron avec une inquiétude qu'elle ne put dissimuler, posa sa main sur son cœur, examina la blessure avec l'attention minutieuse d'un chirurgien, s'assura que le baron vivait encore et banda la plaie. Puis, se redressant tout à coup, la lèvre crispée et l'œil en feu, Elle considéra le meurtrier et ses trois compagnons avec un dédain suprême, une colère terrible, et leur indiquant la porte d'un geste impérieux, « Je vous ai payé, » leur dit-elle. « Sortez maintenant, et allez-vous-en aussi loin que la terre vous pourra porter. » Les trois premiers obéirent sans prononcer une parole. Mais Willem tira une bourse pleine d'or de sa poche, la jeta aux pieds de Gretchen et lui dit « Vous avez tué ma maîtresse avec vos plaisanteries infernales et votre but souterrain que nul de nous n'a jamais su pénétrer. Votre or m'est inutile, puisque celle que j'aimais n'est plus. Reprenez-le, je ne veux rien de vous. » Puis il s'agenouilla sur le cadavre de Rochen, versa deux larmes brûlantes qui tombèrent sur la joue de la jeune fille pâlie par le trépas, et, se relevant, il fit un pas pour sortir. Mais comme s'il eût eu un regret et un remords de laisser le corps de la jeune fille aux mains de Gretchen, il retourna vers lui, le prit dans ses bras et l'emporta sur ses épaules, comme le plus précieux des trésors. Chapitre 22. Bien que terrible, la blessure de M. de Nossac n'était point mortelle. Quand il revint de son évanouissement, et malgré la fièvre délirante qui le brûlait, il put voir que le corps de Rochen avait disparu, que les étudiants n'étaient plus dans sa chambre et qu'il était recouché dans son lit. À son chevet, dans un grand fauteuil, il y avait une femme qui préparait un pansement. Cette femme, c'était Gretchen. Le baron la reconnut, et le délire le prit, et le jeta soudain dans ce monde fantastique et terrible où l'imagination malade se réfugie quand le corps est brisé et incapable d'action. Combien dura ce délire? Le baron ne le sut jamais. Mais à travers les brumes de la fièvre et dans ses rares moments lucides, il aperçut sans cesse Gretchen à son chevet. Gretchen, inquiète, attentive, préparant tout elle-même, potions et remèdes, pensant sa blessure, lui mettant parfois un baiser au front, lui souriant parfois encore avec un bon sourire d'espoir, se faisant dresser chaque soir un lit de camp dans sa chambre, se levant 20 fois par nuit pour venir prendre dans ses mains sa main en sueur pour interroger l'intensité de la fièvre, le degré de pulsation de son cœur, l'état de sa tête affolée et pleine de visions. Et pendant cette longue vie nuageuse et indécise de la maladie, pendant cette agonie douloureuse où la mort s'approcha si souvent et recula toujours, une pensée unique, dominante, tenace, absorba son esprit et le peu de raison qui lui revenait par intervalle. Cette pensée, c'était qu'il aimait Gretchen. Enfin la fièvre diminua, le délire disparut, le sommeil lui succéda. Et un matin, en s'éveillant, le baron vit sa chambre déserte. Gretchen avait disparu. Où était-elle? Si faible qu'il fût, le baron eut la force de se lever et alla jusqu'à une table où il avait aperçu un carré de papier plié en quatre. Il l'ouvrit précipitamment et lut. « Vous êtes hors de danger et je vous laisse. J'ai voulu m'amuser et profiter d'une étrange ressemblance. » Pardonnez-moi le drame terrible qui s'est accompli par ma faute. Vous ne me reverrez jamais. Je puis donc vous faire un aveu. Je vous aime. Adieu. Gretchen Valkenaer. Le baron relut la lettre plusieurs fois. Puis, emporté par son amour et un reste de délire, il s'élança hors de sa chambre, parcourut à demi nu le château et le trouva désert. À la porte était un cheval tout sellé, et dans les fontes de la selle, il retrouva sa bourse. Le baron eut la force de mettre le pied à l'étrier et de lancer son cheval, en disant « Il faut que je retrouve Gretchen. Dussé-je aller au bout du monde ?» Et il prit la route d'Heidelberg. Chapitre 23. Monsieur de Nossac arriva à Heidelberg, s'enquit partout de la demeure de Gretchen Valkenaer, et finit par la trouver. Mais au lieu de Gretchen, il ne rencontra qu'un vieux tailleur qui pleurait et qui, en réponse à sa question, lui répondit « Ma fille Gretchen est morte et enterrée depuis 2 mois. » Il y avait juste 2 mois que, s'il fallait en croire la narration du vampire, la trépassée Hélène Nossac avait volé les vêtements de Gretchen, trépassée comme elle, et prit la route du manoir d'Oldengrasbourg. Tout cela était si extraordinaire que M. de Nossac voulut se convaincre par lui-même de la véracité des dires du tailleur. Il obtint, non sans peine, l'exhumation de Gretchen, et il reconnut bien son vampire. Seulement le malheureux père s'écria « On lui a volé sa robe de toile, son suaire et sa croix d'or !»«
Votre fille n'était-elle pas la maîtresse d'un étudiant nommé Hermann ?»
demanda le baron hors de lui.
« Jamais !» répondit le vieillard indigné.
« C'est étrange !» murmura M. de Nossac. « Je commence à croire que je suis fou !» Et il s'enfuit, éperdu, et comme s'il eût voulu justifier le soupçon qu'il venait d'émettre à l'endroit de sa raison. Deuxième partie. Chapitre 24. « Mon cher baron !» dit le marquis de Simiane, après avoir gravement écouté son ami, le baron de Nossac, qui venait de lui conter son histoire, plus qu'étrange.
« As-tu consulté un médecin ?»«
Non, pourquoi ?»«
Parce que tu me parais atteint de folie. »«
C'est ce que je commence à croire, marquis. Il est de certains moments où je ne sais, à vrai dire, si tout ce qui m'est arrivé n'est point un rêve. »«
J'en suis, moi, très persuadé. »
Soudain, M. de Nossac se frappa le front. « N'as-tu pas été blessé, il y a quelques mois, aux environs d'Heidelberg ?» dit-il.
« Oui, eh bien.
Et n'as-tu point été soigné par un étudiant nommé Hermann de Oldengrasbourg ?»«
Sans doute, un garçon très spirituel et d'assez bonne maison. » »«
Eh bien, tu as vu sa maîtresse, cette Gretchen qui ressemblait si fort à ma femme. »
« Pas le moins du monde. Hermann n'avait point de maîtresse. »«
Je m'y perds, » murmura le baron avec mélancolie. « Il n'y a effectivement de quoi. Et tu n'as pu retrouver ce fantôme, ce vampire, qui, après t'avoir sucé le sang, s'est converti en garde-malade pour te soigner ?»«
Non, » fit tristement le baron. « Je l'ai cherché partout, cependant. » Il y a 3 mois que je fouille l'Allemagne et l'Europe entière en tous sens. 3 mois que je ne vis pas, que je rêve tout éveillé. 3 mois que je souffre.
Oh ! S'interrompit le baron en portant la main à son cœur.
Je souffre bien. Va.
Niais ! Fit le marquis. Nous avons fait cependant assez de petits soupers ensemble. Nous avons passé assez de folles nuits et couru assez de ruelles pour que tu sois, ou doives être, à l'abri d'une petite passion vulgaire, d'un amour d'étudiant, d'abbé novice ou d'écolier. »
M. de Nossac haussa les épaules.
« Mon cher, dit-il, l'amour ressemble à ces pommes d'Amérique, si belles de coloris, si fraîches de duvet, avec lesquelles un enfant joue une journée entière en les faisant sauter dans ses mains. S'il a le malheur d'y mordre, elle le tue. » J'ai joué avec l'amour toute ma vie. Je l'ai pris au sérieux 1 minute et j'ai empoisonné ce qui m'en reste.
« Tarare !» dit le marquis. « Il y a un remède à ce point-là. »«
Lequel ?»«
En aimer une autre. »«
Je ne le pourrais. »«
Essaie !»«
Folie !»«
En attendant, du reste, voici près de 18 mois que tu es veuf. Les 2 ans expirés, la fortune de ta femme retournera à ses héritiers. »
« Je le sais bien, que m'importe. »«
Mon cher, » fit le marquis avec une philosophie dédaigneuse, « persuade-toi bien de ceci. C'est que, de tous les maux les plus incurables, le pire, c'est la misère. On n'en guérit que difficilement. Tu as eu du bonheur la première fois, et tu t'es arraché des griffes de tes créanciers avec une certaine adresse. Crois-moi, ne tente plus le hasard. » Le hasard est comme les femmes, il tourne à tout vent.
Que veux-tu donc que je fasse ?
Que tu te maries, pardieu !
Et avec qui ?
Et comment ?
Murmura le baron avec un découragement profond dans la voix.
Mon cher, reprit le marquis, il y a 3 sortes de mariages pour des gentilshommes comme nous. Le premier est le mariage de convenance, c'est-à-dire un assortiment assez respectable et fort ennuyeux de rang, de naissance et de fortune.
celui-là nous est interdit quand nous sommes un peu ruinés, comme tu l'étais, comme je le suis.
Le second est la mésalliance intéressée. Pour redorer son écusson et donner du foin à ses chevaux, on épouse la fille d'un croquant qui vous apporte le pérou dans un pan de sa chemise, dont le père vous appelle « Monseigneur mon gendre » et vous déteste cordialement, en songeant qu'il est obligé de payer bien cher l'honneur de vous avoir dans sa famille. Le troisième est le mariage d'inclination. Celui-là est « ad libitum ». On prend sa femme dans une gentilhommière qui branle au vent, dans les coulisses de l'opéra ou sur la route de Porcheron, peu importe, nul n'y regarde et n'y trouve à redire. Or, le premier t'était interdit pour une foule de raisons. Tu as fait le second, et ce dernier te fournit les moyens de contracter le troisième. Tu es assez riche pour que ta femme ait le droit d'être pauvre.
« Sans doute, » murmura le baron d'un air qui signifiait « Mais que m'importe tout ce que tu me dis ?»«
Mais, » reprit le marquis de Simiane, « il faut te hâter, cher. Dans 6 mois, si tu n'as pris femme, tu seras le plus pauvre gentilhomme de France et de Navarre. »«
Mais que m'importe ?» fit encore le baron en haussant les épaules.
« Pourtant, » continua Simiane, « si je te montrais, en un coin de Paris ou de la province, la plus jolie tête de jeune fille qui se pût imaginer. 18 ans, blonde cendrée, des pieds de chinoise, des yeux de vierge, et pauvre avec cela à devenir fou d'amour. »
Le baron dressa la tête. « Tu dis qu'elle est pauvre ? » fit-il.
« Oh, je t'en réponds, elle file la nuit pour nourrir son vieux père. »
« C'est donc du menu peuple. »
« De la noblesse, au contraire, et de la vieille roche, cordieux.
Mais tu sais le proverbe, grand nom, manteau troué. Le père a eu 17 balles dans le sien, et jamais il n'a eu assez de pistoles pour emboucher les trous. »
« Voilà de la pauvreté qui sent bon, et qui a son parfum de chevalerie, marquis. »
« Attends donc, mon cher, ce n'est pas tout. L'année dernière, un traitant passa dans son carrosse doré à la portée de leur gentilhommière. Quand je dis gentilhommière, j'ai tort, car c'est un bon et vieux castel des croisades, avec pont-levis rouillé, fossé bourbeux, tour moussu et beffroi branlant. Le vent y mène un train d'enfer sous les portes et dans les corridors. Les tapisseries tombent en lambeaux, les boiseries pourrissent et les écussons ont une vénérable couche de fumée qui va s'épaississant gaillardement à travers les siècles. Et au milieu de cette misère, baron, il y a un vieux châtelain qui vous a des airs de grand seigneur qui impose aux plus hardis et une jeune châtelaine qui a des poses et une démarche de reine. Puis 3 serviteurs, qui ne reçoivent plus de gages, qui travaillent même pour nourrir leur maître, et ne se sont jamais départis de ce profond respect qu'avaient autrefois les vassaux pour leur seigneur. Ce sont les courtisans du malheur dans la plus complète acception du terme. Puis, enfin, un jeune homme, un orphelin, neveu du châtelain, le plus joli garçon que la terre ait porté, un enfant de 18 à 20 ans, aussi frêle, aussi blond que sa cousine.
« Ah ! » fit le baron, fronçant le sourcil.
« Elle l'aime, sans doute. »«
Non, » répondit le marquis. « Je ne crois pas, du moins. Il postule une entrée aux gardes et ne songe guère à l'amour. »«
Pas plus que toi, cher, ô traitant dont tu allais me parler et que tu as abandonné pour me faire une longue description du manoir et de ses hôtes. »
« C'est juste. » Revenons au traitant. Le croquant passa donc à la portée du castel un soir d'automne. Il faisait froid, le soleil allait se coucher dans un linceul gris et maculé de taches sanglantes, le vent pleurait à travers les haies sans verdure et les bois dépouillés. La terre n'avait pas dégelé de tout le jour. Le traitant était chaudement emmitouflé dans sa palatine russe, les glaces de la berline soigneusement fermées et les pieds dans une chancelière. Cependant, il avait froid, quand une bouffée de bise pénétrait jusqu'à lui, et il cherchait d'un œil désolé un gîte convenable pour son importance, quand il aperçut les tours grises du manoir. Il ordonna au postillon de faire halte, et la berline s'arrêta à la herse du pont-levis. Puis, comme le pont-levis était baissé depuis environ 1 siècle, il le franchit et entra dans la cour. Au bruit des roues et des chevaux, la porte du manoir s'ouvrit et un domestique accourut. C'était le plus vieux des trois serviteurs. Quand il eut appris de la bouche du postillon que l'étranger demandait l'hospitalité, le pauvre homme se prit à trembler. Son maître était si pauvre, et il était tenté de répondre que ses maîtres étaient absents, quand le châtelain parut et dit « Bienvenue soient les étrangers ». Le traitant fut reçu cordialement, noblement même, malgré la pénurie du manoir. Si maigre que fut la basse-cour, on fit main basse sur elle. Les derniers flacons de vieux vin furent décoiffés sans pitié. Le gobelet ciselé des aïeux fut tiré du bahut où on le conservait avec soin. Et la jeune châtelaine céda son appartement, le seul du manoir qui fut présentable. Le traitant s'aperçut de cette misère profonde. Il s'aperçut aussi de l'éblouissante beauté de la jeune fille. Et comme depuis longtemps il cherchait à se désencanailler un peu par une alliance, il crut le moment arrivé et l'occasion excellente. Le traitant passa 2 jours au manoir. Le troisième, il demanda effrontément à son père la main de la châtelaine. Le vieux seigneur salua profondément, prit le traitant par le bras, le conduisit dans une galerie poudreuse où pendaient au mur des toiles enfumées. C'étaient ses portraits de famille. Le plus vieux datait de Philippe Auguste et représentait un chevalier bardé de fer, estoquant et taillant à la bataille de Bouvines. Le plus récent représentait un cardinal, l'oncle du châtelain. « Voilà, dit-il, l'unique dot de ma fille. Mais pour obtenir sa main, il est nécessaire d'en avoir une à peu près pareille. » Le traitant se mordit les lèvres, monta en carrosse et partit. « Cordieu ! » s'écria M. de Naussac. « Je trouve le père si beau que je commence à m'éprendre de la fille. Où se cache donc un pareil trésor ?»« À 2 lieues environ de la tombe de ta femme, près de ton château du Léonais. » « Et tu nommes le châtelain ?»« Le comte de Kervégan. » »« Et sa fille ?»« Yvonnette. » »« Joli nom. » »« Nous allons donc monter en voiture. »« Hein ?» fit le baron en tressaillant. « Et prendre la route du Léonais ?» continua imperturbablement le marquis. « Mais je ne t'ai pas dit. » »«
Tu ne m'as rien dit, mais nous partirons. » »«
C'est impossible. » »«
Pourquoi ?»«
Parce que j'aime Gretchen. » Le marquis haussa les épaules. « Tu aimeras Yvonnette, » dit-il.
« Je ne crois pas. »«
Moi, j'en suis sûr. » »«
D'ailleurs, »
le marquis s'arrêta.
« D'ailleurs, tu auras le choix, car elle attend une cousine. »
« D'où ?»«
D'Amérique, une créole étincelante, dit-on, et qui a séduit au Brésil tous les officiers de la marine portugaise. »
Le baron secoua la tête.
« Tout cela est bien séduisant. » murmura-t-il.
Eh bien, alors.
Mais j'aime Gretchen.
Ouf, fit le marquis, tu commences à devenir insupportable.
Eh bien, soit, je partirai.
Demain.
Non, tout de suite.
Pourquoi tout de suite?
Parce que d'ici à demain, tu seras redevenu fou.
Monsieur de Naussac hésita encore. Allons, dit-il, je le veux bien. Demande des chevaux.
« Tiens !» fit le marquis en l'entraînant vers une croisée. « Regarde !»
Il y avait dans la cour de l'hôtel de Simiane une chaise de poste tout attelée, avec position en selle et valet pendus au courroie. Toute objection était désormais impossible.
« Partons donc !» dit monsieur de Naussac.
Puis, comme il s'appuyait sur le bras du marquis, une réflexion lui vint.
« Et ce cousin » fit-il.
« Eh bien, ce cousin,
es-tu sûr qu'elle ne l'aime pas ?»
Le marquis se prit à rire.
« Tu vois bien, dit-il, que tu l'aimes déjà, toi, et sans l'avoir vue. »
« Non, dit insoucieusement M. de Naussac, mais je suis jaloux de toutes les femmes, c'est un principe chez moi. »«
Pacha !» murmura le marquis.
Et la berline de voyage s'ébranla au coup de fouet des postillons. Gretchen était vaincue. Chapitre 25. Monsieur de Simiane eut bien quelque peine à chasser momentanément le souvenir de Gretchen, de l'esprit frappé du baron. Pendant toute la première journée du voyage, il fut mélancolique et rêveur,
s'enfonçant dans son coin de la berline, regardant fuir les arbres de la route avec cette tristesse vague qui s'empare si souvent du voyageur qui passe et fuit avec un remords ou une plaie au cœur. Le second jour, il se laissa aller à écouter, en face d'un confortable déjeuner d'hôtellerie, quelques gaudrioles que son ami lui débita d'un air fort sérieux. Le soir, il ne compta plus les arbres de la route et commença à trouver que Simiane était bien insupportable de ne lui point parler davantage de la châtelaine de Kervégan. Cependant, M. de Naussac n'eut pas le courage de le questionner, et il se contenta de s'enfoncer dans un coin pour rêver à cette femme inconnue encore et qu'il était tout disposé à aimer. Vers 11 heures du soir, comme la berline de voyage entrait sur la terre bretonne, le sommeil s'empara de lui et il s'endormit profondément pour ne se réveiller qu'à 8 heures du matin. Au moment où la chaise atteignait cette petite élévation, d'où 14 mois auparavant, il avait aperçu pour la première fois les flèches du manoir de sa femme. « Tiens, » dit le marquis en étendant la main, « voici ton castel. »«
Je le reconnais. »
« C'est là que nous descendrons d'abord. »
« Ah !» fit Monsieur de Naussac avec un air de contrariété. « Pourquoi pas chez le cher comte de Kervégan ?»
Le marquis frisa la pointe de sa moustache d'un air railleur.
« Mon pauvre ami, » dit-il,
« j'avais peur d'avoir bien de la peine à te rendre amoureux, mais je vois que je me suis trompé. Tu l'es déjà. »«
Oh, par exemple ?»«
L'exemple est patent, ce me semble. »
« Et en quoi ?»«
En ce que tu ne songes pas que descendre chez le comte de Kervégan, qui est pauvre, quand toi, baron de Naussac, tu as une terre magnifique à sa porte, c'est s'exposer à une humiliation et à un embarras des plus pénibles. »«
C'est juste, » fit le baron rêveur. « Nous descendrons chez moi. » »«
Et demain nous monterons à cheval et irons faire une visite aux hôtes de Kervégan. » »«
Pourquoi demain ?»
Parce qu'il nous faut, je suppose, le temps de respirer.
Le baron tira sa montre.
« Il est 8 heures, » dit-il. « Nous arriverons à 9. »«
Je le sais.
Nous déjeunerons à 10, et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de partir sur le midi. »
« Une chose très essentielle. »
« Laquelle ?»«
Un terrible besoin de dormir que j'éprouve. »
« Tu n'as donc pas dormi en voiture ?»
« Belle question. Comme si un pareil sommeil, chaoté, interrompu, fébrile, vous reposez beaucoup. Décidément, nous n'irons que demain. »
« Mais, cependant... »«
Cependant, mon cher ami, tu devrais bien songer un peu à Mlle Gretchen pour te tromper toi-même et t'aider à tirer le temps jusqu'à demain. »
Le baron se mordit les lèvres et ne répondit pas.
« Et puis, il me semble... » continua le marquis avec flegme, que tu pourrais parfaitement faire un bout de visite à la tombe de ta femme et lui donner quelques heures de regret.
Monsieur de Naussac tressaillit et n'osa répondre. Mais la châtelaine de Kervégan cessa quelques minutes de peupler les brumes de son imagination, et il se prit à songer à cette ravissante et fraîche jeune femme qu'il avait vue à peine et que son étourderie avait tuée. Puis, du souvenir de cette morte aimée, il passa à celui de Gretchen, qui était sa vivante image. Et Gretchen oubliée un moment, effacée quelques heures de sa mémoire et de son cœur, y revint en despote et les occupa seule. Pendant ce temps, la berline n'avait cessé de rouler, et elle se trouva bientôt à la grille de ce parc centenaire, sous les ombrages duquel dormait du dernier sommeil Madame la baronne de Naussac, née Borélée. Les domestiques du castel étaient les mêmes que ceux que le baron y avait trouvés l'année précédente. Ils étaient graves, tristes, et portaient encore le deuil de leur maîtresse défunte. Un sentiment de tristesse inexprimable s'empara du baron quand il franchit le seuil du manoir. Il monta l'escalier, le cœur serré, il alla droit à la chambre de la trépassée, que, par son ordre, on avait laissée dans le même état. Et il s'y accouda au lit, encore foulé.
« L'aimerais-je donc encore ?»
murmura-t-il. Et tandis que Simiane se plongeait voluptueusement dans un bain de lait, il descendit, lui, dans le parc et se dirigea vers la tombe de la baronne. Un peu de mousse avait poussé dans les interstices du marbre et frangeait d'une chenille verte l'inscription tumulaire. Au-dessus, les marronniers du parc secouaient leurs grands panaches. Au travers du feuillage, pendait çà et là un lambeau de l'azur céleste et quelques roses de l'Inde, épanouies alentour, achevaient de donner un air de fête et de tranquillité souriante à cette tombe, qui ne renfermait plus sans doute qu'un squelette rongé des vers. De sombre qu'elle était, la tristesse du baron passa à une mélancolie vague. Et ces parfums de l'été, ce ciel bleu, ces arbres verts, qui chantaient les refrains du vent, enlevèrent à cette tombe ce qu'elle pouvait avoir de funèbre et de désespéré. Alors, il se dit philosophiquement, en s'asseyant dessus, « Gretchen lui ressemblait d'une manière si parfaite qu'aimer Gretchen, c'est l'aimer encore. Je veux, je retrouverai Gretchen. » Puis, comme il se laissait aller de plus en plus à cette sérénité qui l'entourait, comme il ouvrait son âme et ses sens à ces vagues émanations de la terre et du ciel répandues autour de lui, une autre pensée lui vint. « Si, comme je me le suis dit déjà, ma femme n'était point morte, se dit-il, et si cette tombe était vide, si elle et Gretchen ne faisaient qu'une seule et même femme, si... » Le baron s'arrêta. « Mon Dieu, continua-t-il, j'ai vu tant de choses extraordinaires que je ne saurais vraiment plus dire si la vie ne peut pas, avec certaines combinaisons scientifiques, revêtir l'apparence de la mort de la façon la plus frappante. Qui me dit qu'elle était morte ?» Et comme il se complaisait dans cette pensée, une idée subite s'empara de lui. « Je veux le savoir, » dit-il. Le jardinier passait dans le fond du parc, la bêche sur l'épaule. Monsieur de Nossac l'appela. « Ouvre-moi cette tombe, » lui dit-il. Le jardinier le regarda, étonné. « Ouvre !» reprit impérieusement le baron. « Il me faut une pince et un levier, » dit le jardinier. « Je vais les chercher. »« Va !» dit le baron. Et il s'assit sur la tombe. 2 minutes après, le jardinier revint armé de ses outils et se mit à l'œuvre. L'opération était difficile. Le marbre était scellé par des clés de fer soudées avec du soufre. Comme la besogne n'allait point assez vite au gré impatient de M. de Nossac, il prit l'un des outils et aida le jardinier. Au bout d'une demi-heure, la caisse de plomb fut mise à nu, puis un quart d'heure après, ce fut le cercueil de chêne. Enfin, la bière d'érable qui renfermait le corps apparut scellée à son tour. Mais là, le baron hésita, chancela et pâlit. « Faut-il ouvrir ?» demanda le jardinier. Si monsieur de Nossac eût été seul, peut-être se fût-il enfui sans oser satisfaire son âpre curiosité. Mais en présence de ce témoin, il domina toute son émotion et vainquit tout scrupule. « Ouvre !» dit-il. Le jardinier s'arma du levier et fit sauter le couvercle. Alors apparut un hideux et navrant spectacle. Dans la bière était un cadavre à demi rongé, le visage méconnaissable, et n'ayant conservé d'à peu près intact qu'une admirable chevelure d'ébène, qui se déroulait en boucles capricieuses sur le cou, les bras et la poitrine, semée de vers. De ce corps inerte qui, selon toute apparence, avait été l'éblouissante baronne de Nossac. À cette vue, le baron devint livide et il se rejeta en arrière avec un cri d'horreur. Le marquis de Simiane, qui était accouru pendant l'opération de l'ouverture du cercueil, le reçut dans ses bras. « Tu es un fou !» lui dit-il. « Et de pareilles émotions, tu !» Il l'entraîna au château et le conduisit dans la salle à manger où le déjeuner était servi. « Déjeunons, » dit-il. « Nous irons à Kervégan aujourd'hui. » Mais le baron demeura insensible à cette nouvelle, qui, 2 heures avant, lui eut fait bondir le cœur. Il but et mangea silencieusement, et ne retrouva la parole qu'à la fin du repas, et ce ne fut que grâce à quelques flacons poudreux que son majordome avait tirés des celliers par ordre du marquis, qu'il desserra les dents et balbutia quelques mots. « En route !» dit Simiane en se levant de table et lui prenant le bras. « Dans une heure, tu auras vu la merveille de la contrée, la fée de Kervégan. » Le baron se laissa conduire, monta à cheval d'un air sombre et laissa Simiane prendre le pas sur lui et lui montrer le chemin. Il ne se souvenait plus guère du lieu où ils allaient. Il avait oublié la châtelaine de Kervégan, et il murmurait à part lui de temps à autre « Il faut que je retrouve Gretchen. Dussé-je aller au bout du monde ?» Tout à coup, et comme déjà on apercevait les flèches de Kervégan au-dessus d'un petit bois de mélèzes et de frênes, une voix claire, harmonieuse, pleine de jeunesse et de mélancolie, s'éleva du sein de la lande, chantant ce populaire refrain de la Bretagne. « Vous n'irez plus au bal, madame la mariée, vous garderez la maison pendant que nous irons. » À cette voix si fraîche, si jeune, empreinte d'une mélodie sauvage, le baron tressaillit et regarda le marquis. « Parbleu, dit celui-ci, nous n'aurons pas besoin d'aller jusqu'au manoir pour voir la châtelaine. La voici. » En effet, du milieu des bruyères apparut presque aussitôt une blonde tête de jeune fille avec un divin sourire d'ange, et ces fraîches couleurs que Dieu laisse tomber de sa palette sublime sur le visage de ces femmes qui vivent au milieu des bois et ne s'étiolent point à l'air corrompu et fatal des grandes villes. Le baron arrêta court son cheval et demeura stupéfait, ébloui de tant de beauté. Mais presque aussitôt, de la même bruyère, une autre tête non moins belle, non moins souriante, quoique plus mâle, se montra tout à coup, et à sa vue, le baron poussa un cri. « Willem » murmura-t-il. « Willem ou Samuel ? L'un ou l'autre. » Chapitre 26. L'étonnement de la jeune fille, du marquis et de celui que le baron prenait pour Samuel ou Willem, ses deux frères jumeaux qui avaient joué un rôle au manoir de Oldengrestbourg, fut au moins aussi grand que la stupéfaction du baron lui-même à la vue de ce jeune homme qui venait de se montrer à côté de la châtelaine de Kervégan. Cet étonnement fut suivi d'un moment de silence que le marquis de Simiane rompit enfin le premier. « Mademoiselle, dit-il, je vous présente monsieur le baron de Naussac, qui, sans doute, a rencontré quelque part votre cousin. » « C'est Samuel, dit le baron vivement. Willem avait les yeux d'une nuance plus foncée. « Samuel, fit le jeune homme en regardant le baron. « Je ne m'appelle pas Samuel, monsieur. » « Mon cousin se nomme Hector, dit la châtelaine avec un sourire. « C'est Samuel, persista le baron. « Quel Samuel ? Demanda Simiane impatienté. « Le frère de Willem. » « Je n'ai pas de frère, monsieur, répondit le jeune homme d'une voix douce. « Oh, je ne me trompe pas !» s'écria le baron avec une ténacité de regard et d'accent qui attestait sa conviction profonde. « Je me nomme Hector de Kerdrel. Je suis fils unique, orphelin, et le neveu du comte de Kervégan, chez lequel j'ai passé toute mon enfance. »«
Et vous ne l'avez jamais quitté ? Jamais ?
Vous n'étiez point à Oldengrestbourg ?
Qu'est-ce que Oldengrestbourg ?
Le château du Veneur Noir. »«
Alors qu'est-ce que le Veneur Noir ?
C'est un étudiant allemand du nom de Berghausen et qui prétendait être le fils du diable. » Le jeune homme fit un mouvement d'épaule qui signifiait
« Décidément, je n'y comprends plus rien. »
« Ni moi ? » fit la châtelaine en remplaçant par un sourire le haussement d'épaule du jeune Hector. « Ni moi ! » murmura le marquis.
Monsieur de Naussac était redevenu silencieux et regardait alternativement l'éblouissante jeune fille, le marquis, qui semblait pétrifié, et cet Hector de Kerbrel, qui ressemblait si fort à Samuel. Il y avait sur les lèvres du jeune homme et sur la bouche rosée de la jeune fille un sourire si ingénu, si naïvement étonné. Il y avait dans leur réponse une candeur telle qu'il était difficile de soupçonner une nouvelle mystification. Et puis,
Comment croire que Samuel avait fait près de 1000 lieues et quitté la Bohême montagneuse pour une vallée de la Bretagne, dans le seul but de continuer au baron ses mauvaises plaisanteries du château de Oldenkrasbourg, qui avait eu une si fatale issue, un dénouement si terrible. Cependant, la ressemblance était, à ses yeux, frappante, étrange, aussi parfaite que celle de Gretchen avec sa femme, dont il venait de voir il y a 2 heures le cadavre à demi rongé des vers. Mon cher, dit Simiane avec un accent de compassion profonde, je commence à croire que tu es réellement fou par un côté du cerveau et que tu trouves partout des ressemblances. Cette réflexion fit tressaillir M. de Naussac et, prêt à y croire, il regarda de nouveau Hector de Kerdrel. Hector lui rappelait si bien Samuel. Hector et Samuel avaient si bien l'air de n'être qu'un seul homme, que pour que M. de Naussac ajoutât foi à cette accusation de folie que le marquis laissait insoucieusement tomber de ses lèvres, il fallait que le veneur noir, le manoir de Oldenkrasbourg, Gretchen, Rochen, Willem et ses frères, n'eussent jamais existé, que ce fût un long et pénible rêve fait une nuit de bivouac ou de tranchée, et qu'il avait pris pour la réalité elle-même. Monsieur de Simiane, la jeune fille et Hector, suivaient du regard sur son visage les rapides émotions du doute et de l'angoisse qui se partageaient son esprit et l'avaient de nouveau absorbé et rendu muet. Il sentit ce regard peser sur lui. Il se prit à trembler en pensant qu'on était tout près de le taxer de folie, et il releva soudain la tête, fit un suprême effort et ramena un franc sourire sur ses lèvres blêmies. « Rassurez-vous, dit-il, je ne suis pas fou. »« Espérons-le, murmura Simiane. Seulement, monsieur ressemble d'une manière si parfaite à un jeune homme que j'ai connu en Allemagne et qui avait un frère jumeau qui lui ressemblait trait pour trait, que j'ai pu, que j'ai dû témoigner mon étonnement profond. « Je ne croyais pas, reprit Hector en riant, avoir le type allemand aussi prononcé. « Vous êtes blond, dit le marquis. « C'est juste. « Mademoiselle, reprit le baron, redevenant soudain l'homme de cour que nous avons vu déjà, je suis honteux que notre première entrevue ait été signalée par une scène aussi ridicule, et dont je suis à la fois l'acteur médiocre et l'auteur malheureux. Permettez-moi de vous offrir mes humbles excuses. « Je les agrée, monsieur, » répondit Yvonnette en rougissant. « Mon ami Simiane, poursuivit le baron, est venu s'installer chez moi aujourd'hui même, et comme je ne connaissais aucun de mes voisins de château, il a bien voulu me présenter à monsieur le comte de Kervégan, votre père. » Yvonnette s'inclina. « Quand vous nous avez rencontrés, mademoiselle, nous nous rendions au château. »« Vous y serez le bienvenu, monsieur, » balbutia Yvonnette un peu troublée. Monsieur de Naussac remarqua cet embarras, se souvint des confidences de Simiane à l'endroit de la pauvreté du comte, et il comprit qu'Yvonnette songeait peut-être à ce que l'amour-propre de son père pourrait souffrir. Et alors, comme les natures d'élite se comprennent entre elles sans qu'il soit besoin d'échanger quelques paroles, il se sentit entraîné spontanément vers cet enfant si belle, si chaste, si digne, si gracieusement coquette et élégante sous sa robe de simple toile et son simple chapeau de grosse paille du pays de Tréguier. « Puisque mon ami Naussac a jugé convenable de se présenter lui-même, ma belle cousine, dit Simiane, je n'ai plus de mission officielle et je vais reprendre mes attributions de vieux parent. Donnez-moi la main. » Le marquis mit pied à terre, passa au bras la bride de son cheval et offrit la main à la jeune châtelaine qui s'y appuya nonchalamment comme on s'appuie sur un père ou un vieil ami. Le baron eut un mouvement de jalousie, mais il était trop homme d'esprit pour ne pas le comprimer. Et imitant M. de Simiane, il descendit de cheval à son tour, et tandis que le marquis prenait les devants avec Yvonnette, il prit familièrement le bras d'Hector. « Mon oncle sera ravi de vous voir, » dit le jeune homme. « Il y a fort longtemps qu'il le désire vivement et s'informe de l'époque de votre arrivée. »
Monsieur de Nossac tressaillit. Hector avait la voix de Samuel, autant qu'il en avait déjà le visage, la taille et le geste. Le doute, cette chose affreuse, ce mal presque incurable, lui revint à l'esprit et s'empara de lui avec ténacité.
« Avez-vous voyagé ? » demanda-t-il, à peu près de ce ton qu'avait monsieur le lieutenant criminel arrachant des aveux à un accusé.
« Hélas, non, monsieur, répondit tristement Hector. Je suis sans fortune. Je suis, malheureusement ou heureusement, très fier. Et pour voyager selon son rang et sa naissance, il faut de l'or. Je n'en ai pas.
Au moins avez-vous quitté la Bretagne, parfois ?
Jamais.
Vraiment ?
Mon excursion la plus lointaine a été un voyage à Nantes, où j'allais voir le lieutenant du roi.
Le connaissez-vous ? Demanda monsieur de Nossac, interrogeant toujours le visage impassible et naïf, à la fois, d'Hector de Kerdrel.
À peine, mais mon oncle, qui a été colonel d'artillerie dans le même corps d'armée que lui, m'avait donné une lettre de recommandation.
Alliez-vous donc solliciter ?
Sa protection, monsieur, fit Hector sans humilité ni arrogance. N'est-ce point monsieur d'Aiguillon ?
Oui, monsieur.
Je le connais beaucoup, et si je puis...
Oh ! Dit Hector, je demandais peu de choses.
Quoi encore ?
Une casaque dans les mousquetaires du roi.
Et vous n'avez pas obtenu ?
Pas encore, mais monsieur d'Aiguillon a chaudement apostillé ma lettre, et j'espère...
Cordieu, monsieur, espérez ! Vous ferez un trop joli mousquetaire pour que le roi ne vous agrée pas sur le champ.
Vous êtes bien bon, monsieur, mais je crois que la meilleure de mes recommandations...
Est ? Demanda le baron.
Le nom de mon père.
En effet, dit monsieur de Nossac, rappelant ses souvenirs, vous êtes de bonne et vieille maison. Les Kerdrel sont bien connus et apparentés dans l'Ouest.
Mon père était colonel des Suisses.
Je m'en souviens maintenant, et je crois même avoir servi avec lui sur le Rhin.
« C'est possible, monsieur, car il a fait toutes les guerres d'Allemagne. »
Il y avait un accent de vérité tel dans les réponses du jeune homme. Il citait des noms si connus, si honorables, qu'il eût fallu être fou pour conserver encore quelques doutes à l'endroit de son identité avec Samuel. Les derniers soupçons du baron commençaient à s'évanouir, et ils avaient complètement disparu quand, au sortir d'une immense coulée de frênes, il vit se dresser devant lui la masse imposante du vieux manoir de Kervégan. Monsieur de Simiane n'avait point menti quand il avait annoncé le castel comme une construction du temps des croisades, une ère véritable de chevalier qui avait vu passer les siècles et qui était resté debout malgré l'aile dévastatrice du temps. Il avait tours massives, ogives et créneaux. On voyait son beffroi à plusieurs lieues à la ronde et ses fossés étaient profonds. Mais sur toute cette fière attitude, des touffes de lichen et de lierre d'Irlande avaient répandu un vaste manteau plein de jeunesse et de bonhomie. De grands bois, des prairies en fleurs, des coteaux couverts d'arbres fruitiers, toute une nature inoffensive et champêtre lui servait de repoussoir et semblait attester que sa mission belliqueuse était accomplie depuis longtemps. Dans la cour, intramuros, autrefois le champ des manœuvres des hommes d'armes, on avait laissé pousser en pleine terre des marronniers et des acacias qui enlaçaient leurs branches alentour des fenêtres, encadrant les ogives d'un feston capricieux. Enfin, comme complément du tableau et pour achever de mitiger l'aspect du vieux manoir, on avait laissé grimper au mur, çà et là, une jeune vigne qui promettait des merveilles, malgré l'âpreté du climat breton. Les deux gentilshommes et leur guide n'eurent nul besoin de sonner du cor à la herse. La herse était baissée depuis un siècle et demi, et les chaînes qui la supportaient avaient une couleur de rouille qui témoignait de leur inaction. Ils longèrent une allée sablée, trouvèrent la porte ouverte et entrèrent dans un vestibule fort délabré, comme tout le reste du manoir.
mais où la jeune châtelaine avait fait placer à profusion des vases et des corbeilles de fleurs, de ces belles fleurs des champs, comme on n'en trouve aucune chez les jardiniers de Chaillot ou des buttes Saint-Chaumont. Ainsi que le vestibule, l'escalier et les salles enfumées où la châtelaine conduisit ses hôtes et qui étaient les salons de réception, avaient leurs toilettes champêtres et respiraient ce cachet de coquetterie naïve et fraîche qu'une jeune femme peut seule donner à une vieille demeure ou à un vieil époux. Enfin, une porte s'ouvrit et un domestique plus qu'octogénaire, mais portant gaillardement sa livrée, annonça d'une voix cassée qu'il s'efforça de rendre solennelle. « Monsieur le comte de Kervégan !»